Chapitre 3. Après la lune de miel. 3 mois s'étaient écoulés depuis l'entrevue nocturne dans l'appartement de Margrève, 3 mois, et l'opéra venait de s'ouvrir pour la saison, et 3 nouveaux ténors, 2 sopranos et 1 basse, avaient fait leur apparition sur la scène classique du théâtre de Sa Majesté. Le roman en vogue avait été mis en vente par Meudet. Rottenrow était encombré d'amazones à cheval et d'officiers des Life Guard, blasés, portant d'énormes favoris blonds mêlés à des cordons rouges. On vendait des roses mousseuses sur le pavé poudreux des rues du West End, et le marché de Covent Garden était comme une corbeille de fleurs riches en couleurs et d'un parfum exquis. En un mot, Londres était en pleine saison lorsque M. et Mme Dalton revinrent après avoir passé leur lune de miel du côté des lacs du Cumberland et fixèrent leur résidence dans la petite maison d'Erford Street, meublée par Elinor avant son mariage. On s'était fait la cour pendant bien peu de temps. Les incertitudes, les doutes, les craintes, les rêves, les espérances, en un mot, tout ce qui constitue le prologue d'une union prochaine avait manqué à ce mariage, donné par le testament de son oncle, ce mariage fondé sur l'estime et non sur l'affection, ce mariage qu'elle avait contracté sous l'impulsion d'une nature généreuse et vive, habituée à ne jamais réprimer un sentiment. Est-elle heureuse, cette froide estime, ce calme respect qu'elle ressent pour l'homme choisi pour elle par une autre personne, peuvent-ils satisfaire le cœur ardent de la jeune femme romanesque? Voilà déjà 6 semaines qu'elle est mariée et elle n'a pas encore vu Margrève, le seul ami qu'elle possède en Angleterre, excepté sans doute son mari depuis le jour de son mariage. Pas depuis cette belle matinée du mois de mai dans laquelle il prit sa main glacée dans la sienne et, qu'en sa qualité de tuteur et de représentant de son père décédé, il l'a remis dans celle de son époux. Elle se souvint que ce jour-là, lorsque sa main toucha sa main, elle était aussi froide et aussi inerte que la sienne, et que sa figure ennuyée était encore plus pâle que d'habitude, sous les rayons du soleil de printemps qui passait à travers les vitraux de l'église. Mais, malgré tout, il avait fait les honneurs de la table au déjeuner, bu à la santé des 2 époux, complimenté les demoiselles d'honneur et ébloui tout le monde avec cette grâce merveilleuse qui n'appartenait qu'à lui. Et si Elinor avait jamais pensé qu'elle eût quelque droit, pour l'amour de défunt son père ou pour celui de son charmant visage, d'être plus chère à Margrève que la plus indifférente de ses clientes, cette pensée eût été chassée par le sang-froid plein de politesse de son adieu lorsque les 4 chevaux partirent pour la première poste à Windermere. Joan est à sa fin et elle est assise dans son petit salon, attendant les visites du matin. Il y a 8 jours qu'ils sont en ville et Margrève n'est point encore venue les voir. Elle a l'air ennuyée ce matin-là et elle semble en vain chercher quelque chose pour s'occuper. Elle va à son piano resté ouvert, fait quelques gammes, joue une valse brillante ou bien encore touche les notes d'un air langoureux en chantant quelques paroles en italien. Ensuite, elle prend sur la table un roman qui n'est point encore coupé et lit quelques pages, çà et là, en l'endroit où le livre vient à s'ouvrir. Elle va près d'un métier à tapisserie et se donne bien du mal à choisir et à comparer des laines et des aiguilles. Mais lorsqu'elle a terminé cet examen, elle ne fait pas 3 points. Elle se promène avec nonchalance dans la chambre, examinant les gravures qui décorent les panneaux gris clair. Puis, enfin, elle se sent tellement fatiguée qu'elle se laisse tomber sur un fauteuil auprès de la fenêtre ouverte et regarde avec paresse, à travers une forêt de petits héliotropes et de géraniums nains, dans la rue pleine de soleil. Elle est charmante à voir, mais elle ne paraît pas du tout heureuse. Les opulentes masses de ses noirs cheveux sont relevées sur ses tempes et ramassées en tresses roulées sur le derrière de sa tête. Sa toilette blanche, consistant en une robe fort simple, n'a pour tout ornement que de gros nœuds de ruban violet. Elle n'a aucun bijou, sauf une chaîne d'or excessivement fine qu'elle tortille continuellement entre ses doigts blancs. Elle est assise depuis environ 1 demi-heure, regardant sans cesse, au travers des plantes sur le balcon, le trottoir d'en face, quand tout à coup elle fait un bond et arrache avec précipitation la chaîne mince qui entourait ses doigts. Elle a aperçu une personne qu'elle attendait, un monsieur qui s'avance avec indolence de l'autre côté de la rue. Il traverse la route sous la croisée et frappe à la porte. « Enfin, dit-elle, peut-être qu'à présent ce mystère sera expliqué. » Un domestique annonce « Monsieur Margrave. » « Enfin, dit-elle de nouveau lorsqu'il entre dans la chambre. « Oh, monsieur Margrave, je vous attendais avec tant d'impatience. » Il cherche sur la table encombrée un endroit pour poser son chapeau, ne peut y parvenir et le place sur une chaise, et seulement alors la regarde lentement et dit « Impatiente de me voir, ma chère Elinor. Pourquoi impatiente ?»« Parce que j'ai à vous adresser deux ou trois questions auxquelles il faut que vous répondiez. » Cette expression particulière, habituelle aux yeux de Margrave et qui était une espèce de tremblement des cils, se fit remarquer alors. Mais elle fut trop courte pour être saisie par Elinor. Il se laissa aller paresseusement sur un siège, auprès d'elle, mais non en face. Il s'arrêta pour placer sa chaise, le dos tourné au jour, puis dit alors « Ma chère Elinor, ma chère Madame Dalton, quelles questions pouvez-vous avoir à m'adresser si ce ne sont des questions d'affaires et, dans ce cas-là même, votre mari, qui est un homme aussi habile que moi, peut y répondre parfaitement. Monsieur Dalton est la dernière personne à laquelle je puisse m'adresser pour avoir réponse à ce que j'ai à demander. Et pourquoi la dernière personne? Parce que ces questions l'intéressent lui-même. Oh, je vois ce que c'est, ma chère Madame Dalton. N'est-ce point déjà un mauvais commencement? Vous en appelez de votre mari à votre avoué. Non, monsieur Margrave, j'en appelle à mon tuteur. Pardonnez-moi, ma chère Elinor, ce personnage n'existe plus. Il est défunt, il est mort. Depuis l'instant où j'ai placé votre main dans celle de votre époux sur les marches de l'autel de l'église Saint-Georges, mes devoirs, mes droits de vous conseiller et le vôtre de me consulter n'existent plus. C'est pourquoi vous n'avez qu'un tuteur, qu'un conseiller, qu'un ami maintenant, et son nom est Henry Dalton. » Un nuage de tristesse couvrit le charmant visage d'Elinor, et ses yeux s'emplirent à moitié de larmes lorsqu'elle dit « Monsieur Margrave, que le ciel me préserve de dire un mot qui puisse être interprété comme un reproche contre vous. Vos devoirs de tutelle, acceptés à la prière de mon père mourant, ont été remplis avec la conscience qu'un homme de votre rang et de votre honorabilité doit avoir. Mais je dois avouer, avec la folie d'une jeune femme, que j'aurais souhaité que, pour la mémoire de mon père mort, qui vous aimait et avait confiance en vous, que, pour le souvenir de ma jeunesse envolée, pendant laquelle nous fûmes compagnons et amis, un sentiment plus chaud, plus tendre, un peu plus affectionné, quelque chose de la tendresse d'un frère aîné, eût pu se mêler avec votre ponctuel empressement à remplir vos devoirs de tuteur. Je ne voudrais point pour tout au monde vous reprocher, encore moins vous adresser un blâme pour un acte dont je suis seul responsable, et cependant je ne puis oublier que, s'il en eût été ainsi, ce mariage n'aurait jamais eu lieu. » Alors, ce n'est point un mariage heureux ? C'est un mariage des plus malheureux. » Margrave resta silencieux pendant quelques instants, puis il dit gravement, presque tristement, « Ma chère Madame Dalton, » il s'applique à l'appeler sans cesse Madame Dalton, comme s'il était désireux de lui rappeler à chaque instant combien leur relation avait changé, « lorsque vous m'accusez d'un manque de tendresse dans ma conduite envers vous, et d'une absence d'un sentiment plus chaud pour la mémoire de votre père, mon tendre et excellent ami, vous m'accusez d'une chose dont je ne suis pas plus responsable que de la couleur de mes cheveux ou des traits de mon visage. Vous m'accusez d'une chose qui est peut-être le tourment de ma vie, un cœur incapable d'avoir une véritable affection ou une sincère amitié pour aucune créature vivante. Regardez-moi à 35 ans, n'aimant personne, n'étant aimé de personne, sans un attachement plus difficile à rompre qu'une note d'hôtel à payer ou de faire mon porte-manteau. Mon existence, dans son plus vif éclat, est une existence monotone, un présent fort triste qui ne peut regarder en arrière pour voir un passé plus riant, ni en avant pour espérer un avenir plus heureux. sa voix grave et mélodieuse a des accents de tristesse en prononçant ses dernières paroles, et il regarde avec chagrin le bout de la canne avec lequel il fait des dessins imaginaires sur le tapis. Après un court silence, il lève la tête et dit « Mais vous désiriez obtenir de moi quelques renseignements ?»« Je le désirais, je le désire encore. Lorsque j'épousais M. Dalton, quels ont été les arrangements pris ? Vous ne me dites rien alors, et de mon côté, moi si ignorante en affaires, je ne vous demandais rien. En outre, j'avais alors des motifs pour le croire le plus honorable des hommes. » Quels arrangements ont été pris ? Il répète sa question comme si c'eût été la dernière qu'il s'attendait à entendre. « Oui, ma fortune. Quelle somme fut affectée pour ma part ?»« Pas un sou. » Elle fait un bond de surprise auquel il répond de la façon la plus nonchalante. « Pas un sou. Il n'y avait rien qui ressemblât à un arrangement dans le testament de votre oncle. » Il vous laissait sa fortune, mais il ne vous l'a laissée qu'à la condition que vous la partageriez avec son fils adoptif bien-aimé, Henry Dalton. Ceci impliquait non seulement une affection considérable pour le jeune homme, mais encore une confiance sans bornes en lui. Capitaliser votre argent ou le placer en votre nom eût été annuler le testament de votre oncle. L'homme qui possédait sa confiance pouvait bien posséder la vôtre. Voilà la raison pour laquelle je n'ai jamais proposé d'arrangement. J'ai peut-être agi contrairement aux usages d'un avoué, mais je crois, ma chère Elinor, que j'ai agi de la seule manière qui était convenable pour remplir les intentions de votre oncle affectionné en faveur des deux personnes qu'il aimait le plus et qui étaient ses plus proches. Alors, Henry Dalton est le seul maître de ma... de la fortune ? Comme étant votre époux, certainement oui. Et il peut, s'il le veut, vendre la propriété d'Ardenne. La propriété d'Ardenne n'est point hypothéquée. Certes, il peut la vendre s'il le désire. Alors, monsieur Margrave, je dois vous annoncer qu'il désire la vendre, que telle est son intention. Vendre le château d'Ardenne ? Oui. Un nuage de colère colore son visage et elle cherche sur la figure de l'avoué une nuance d'indignation. Mais c'est en vain. « Eh bien, ma chère madame Dalton, d'après mon opinion, il fait preuve de sens en prenant cette résolution. Ardenne est la plus coûteuse, la plus froide, la plus décrépite de toutes les vieilles constructions de l'Angleterre. Elle a tous les dehors d'une grande maison de campagne, de magnifiques boiseries en chêne, d'abominables offices, trois escaliers dérobés et pas un seul fourneau convenable, six chambres en tapisserie et pas de salle de bain. » Une douzaine de Léonard de Vinci et pas une seule porte qui ne donne accès à un assassinat sous la forme du vent du nord-est, un parc aux daims et pas un seul daim, trois maisons de garde et pas assez de gibier pour tenter le plus pauvre des braconniers. Vendre le château d'Ardenne, rien au monde ne serait plus à désirer. Mais hélas, ma chère Elinor, votre mari n'est pas l'homme que je croyais s'il compte trouver un acquéreur. Elle le regarde avec un certain air de mépris lorsqu'elle lui dit « Mais le manque de procédés, l'outrage fait à la mémoire de mon pauvre oncle. Votre pauvre oncle n'en sera pas oublié un jour plus tôt parce que vous ne garderez point une habitation humide et incommode. Quand Dalton vous a-t-il dit qu'il avait l'intention de vendre Ardenne ? À notre retour de voyage, je donnais à entendre que nous irions y demeurer, cela bien entendu à la fin de la saison. » Et il m'a répondu qu'il ne fallait pas compter y résider puisque l'habitation devait être vendue. Vous lui avez demandé ses motifs ? Oui, il m'a répondu qu'il ne pouvait me donner ses raisons et ne pourrait jamais me les révéler. Il m'a dit que si je l'aimais, je devais avoir confiance en lui et le croire et être persuadé que le parti qu'il prenait, tout étrange qu'il pouvait paraître, était en réalité le parti le meilleur et le plus sage qu'il put prendre. Mais malgré tout cela, vous n'avez point confiance en lui, demande-t-il avec inquiétude. Comment puis-je faire autrement ? De la fortune que je lui ai apportée, il refuse de me donner un sou. Lui, le mari d'une femme riche, prêche l'économie, même dans les plus petites choses. Je n'ose point me commander un bijou, un tableau, un meuble élégant, une jardinière. car si je le fais, il me dit que la dépense dépasse ses moyens et qu'il faut que j'attende que nous ayons plus d'argent. Puis sa profession lui est mille fois plus chère que moi. Pas un pauvre avocat sans fortune, ayant une mère et une sœur à soutenir, ne travaille avec plus d'ardeur, ne se dévoue plus religieusement qu'il ne le fait à la routine ardue du barreau. Elinor, votre mari est l'esprit le plus élevé et l'homme le plus consciencieux qui existe dans le monde entier. Je prends rarement la peine d'avancer une assertion formelle, mais croyez-moi, je vous en prie, lorsque je vous le dis. Croyez-moi, quand même vous ne pourriez pas le croire. « Vous aussi contre moi ? » dit-elle avec chagrin. « Oh, ne pensez pas que ce soit l'argent que je désire. Ce n'est pas pour posséder de l'argent que je me plains de lui, c'est seulement parce que mon cœur se brise à l'idée d'être uni à un homme que je ne puis ni respecter ni estimer. Je ne prétendais point l'aimer, se dit-elle en se parlant à elle-même, mais j'espérais au moins avoir pour lui de l'estime. » « Je ne puis que vous répéter, Elinor, que vous vous trompez sur son compte. » À ce moment, ils entendirent dans l'escalier un pas vif et ferme, et Dalton lui-même entre dans la chambre. Son visage est épanoui et riant, il s'avance vers sa femme avec vivacité. Mais à la vue de Margrave, il se recule en fronçant les sourcils. « Monsieur Margrave, je croyais qu'une des conditions de notre convention était que... » L'avoué l'interrompt. Que je ne devais jamais assombrir cette demeure. Oui. Elinor jette les yeux de l'un à l'autre avec une figure pâle et effrayée. Henri, Henri, s'écrie-t-elle, Monsieur Dalton, au nom du ciel, que signifie tout ceci? Rien qui puisse vous affecter en aucune manière, Elinor. Un désaccord d'affaires entre Monsieur Margrave et moi, rien de plus. Sa femme détourne les yeux de lui avec chagrin et, se retournant vers Margrave, elle appuie sa main sur le dossier sculpté de la chaise sur laquelle il est assis. C'est une action bien simple en elle-même, mais cette action dit, aussi clairement que des paroles peuvent le dire, « C'est en lui que j'ai confiance, malgré vous, en dépit de tout le monde. » Dalton s'en aperçoit, il la regarde avec un air sérieux et lui lance un regard de reproche en lui disant « En présence de pareilles circonstances, alors, Monsieur Margrave, je n'avais pas le droit de venir ici, d'accord, et je ne serais point venu, mais... » Il hésita un instant et Elinor l'interrompit. « J'ai écrit à mon tuteur pour le prier de venir me voir. Que signifie ceci, Monsieur Dalton ? Quel mystère renferme tout ce qui se passe ? Dois-je voir mon meilleur et mon plus ancien ami insulté dans ma propre maison ? Une femme mariée n'a point d'autre ami que son époux, et il ne peut me convenir de recevoir les visites de M. Margrave dans notre maison, répond avec calme M. Dalton. La société de M. Margrave ne vous ennuiera plus, M. Dalton. L'avoué se lève en parlant ainsi et se dirige lentement vers la porte. Adieu. Sa main est sur le bouton de la serrure lorsque, se retournant et avec un ton d'émotion contenu dans la voix, il dit à Madame Dalton « Elinor, donnez-moi une poignée de main. » Elle lui tend les deux mains. Il les prend dans les siennes, penche vers elle sa tête brune pendant qu'il les presse, puis dit alors « Pardonnez-moi, Elinor, et adieu. » Il est parti. Elle s'élance hors de l'antichambre et l'appelle. « Monsieur Margrave, mon tuteur, Horace, revenez, ne serait-ce qu'un instant, revenez !» Son mari la suit et, saisissant son frêle poignet dans sa vigoureuse main, il la conduit dans le salon. « Elinor, choisissez entre cet homme et moi. Essayez de renouveler connaissance avec lui ou d'entretenir n'importe quelle correspondance avec lui qui ne passera point d'abord par mes mains et nous nous séparerons pour toujours. » Elle tombe en sanglotant sur sa chaise. « Mon seul ami » s'écrie-t-elle, « mon seul, mon unique ami, et être séparée de lui d'une telle manière !» Son mari se tient à une petite distance. Il est inquiet et l'examine avec tristesse, tandis qu'elle donne cours à une émotion qu'elle ne peut comprimer. « Quelle chose misérable, quelle abominable chose » dit-il tout haut. Et pas d'espoir d'y mettre un terme, pas d'espoir de voir notre malheur finir.